Bonsoir et bienvenue dans votre émission à votre avis. Moi c'est Abdourahmane Dia au micro. Alors, selon les Nations Unies, 200 millions de femmes et de filles dans le monde ont subi une forme de mutilation génitale féminine. Et si cette tendance perdure, 3 millions de jeunes filles risquent de subir des mutilations génitales féminines chaque année. Alors, pourquoi la pratique perdure? Les approches des gouvernants et des ONG qui travaillent sur le sujet sont-elles appropriées envers les communautés qui pratiquent les mutilations génitales féminines? Autant de questions que nous allons aborder avec vous, les auditeurs, également avec notre invitée de Dakar que nous tentons de joindre, Madame Fatou Sow. Mais nous avons déjà Mariam Koulibaly depuis Bamako. Mariam, bonsoir.
Oui, bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, cette pratique, malgré tout ce qui est fait au niveau de la sensibilisation, elle perdure dans certaines parties du continent, en tout cas dans beaucoup de zones rurales. Qu'est-ce qui l'explique selon vous?
Bon, moi je pense que la question, elle est d'abord culturelle. C'est une question de culture. Les gens sont nés avec ça. Nos grand-mères, nos arrière-grand-mères, on a grandi dans ça. Et c'est une pratique très difficile à laisser parce que si on regarde même au Mali, même les gens très très cultivés, ceux qui sont en train de lutter contre ça, ils le font en cachette.
D'accord. Vous restez avec nous, Mariam. Nous avons notre invitée de ce soir, Madame Fatou Sow, docteur Fatou Sow, sociologue. Fatou Sow, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, aujourd'hui, les Nations Unies consacrent cette journée à la lutte contre les mutilations génitales féminines. Vous travaillez sur le sujet depuis des décennies, si on peut dire. Pourquoi cette pratique perdure dans beaucoup de zones rurales aujourd'hui en Afrique?
Alors, je vais peut-être faire un premier commentaire. C'est-à-dire que les Nations Unies s'en occupent aujourd'hui et de manière, ou disons de manière très récente. Mais les Africaines se sont penchées sur la question de l'excision depuis les années 80. Je pense à Ouattam qui a publié son ouvrage La parole est négresse, dans laquelle elle parlait déjà de l'excision. Je pense à toutes les batailles qui ont eu lieu en 1980 à Copenhague, lors de la conférence de la décennie mondiale des femmes autour de cette question, et à Nairobi. Plus la création de plusieurs institutions de lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc ce n'est pas une question récente, c'est une question très très ancienne. Et une loi, et les premières lois qui ont été promulguées, datent pour le Ghana des années 86 et... Excusez-moi, 96, c'est ça que je voulais dire, et puis d'autres pays comme le Burkina Faso, le Sénégal en 1999.
D'accord.
Donc il y a énormément de campagnes qui ont été menées et des efforts qui ont été menés contre une pratique qui persiste, et elle persiste parce que c'est une pratique culturelle.
D'accord, notre première auditrice le disait tout à l'heure, mais Fatou Sow, justement... cette pratique persiste, c'est vrai. Elle recule aussi dans d'autres parties du continent, mais on a des pays où le taux de prévalence est à 90%. Franchement, quand vous dites que la bataille a démarré depuis des décennies, c'est quand même difficile à voir qu'on, vraiment, dans certains pays, au moins, on a quand même un taux de prévalence aussi élevé.
Oui, vous savez, parce que c'est une question culturelle, c'est une pratique culturelle très forte qui est basée sur la culture elle-même, donc les pratiques coutumières, comme on dirait, et également, elles sont de temps en temps avalisées par la religion.
D'accord.
Ça également, c'est important. Je vois par exemple au Sénégal, où la loi a été votée en 1999, on voit régulièrement la famille omarienne revenir régulièrement et demander que l'abolition des mutilations génitales féminines soit abolie et qu'on revienne et qu'on relégalise la pratique parce que c'est une pratique qui serait musulmane, ce qui n'est pas évident du tout.
D'accord. Donc, la famille omarienne est une famille religieuse très influente dans le nord du...
Au Sénégal.
Oui, au Sénégal, surtout dans le nord.
Et dans toute la vallée du fleuve Sénégal.
Tout à fait. D'accord. D'accord. Nous avons une autre auditrice, Rahabel Noum, depuis le Mali également. Rahabel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, votre point de vue sur la question, vous êtes au Mali, dites-nous un peu comment la situation se présente chez vous.
Ok, en fait, le problème de l'excision ou de la mutilation génitale au Mali persiste comme... En fait, durant des décennies, ça a toujours été... En fait, je sais, ça a toujours été l'objet des débats houleux entre les membres de la population. Jusque-là, je lisais un rapport qui dit qu'en fait 89% en fait pratiquent l'excision au Mali. Surtout quand on prend des communautés comme les Soninké, les Bambara, le Peul et les Mandeng, ce qu'on appelle les Malinké, on se rend compte que c'est eux qui pratiquent le plus le problème de l'excision. Et de mon point de vue, l'excision en fait c'est une atteinte en fait au droit de la femme et de la jeune fille en tant que telle, parce que comme on le dit, la Constitution, les trois premiers articles de la Constitution malienne le prédisent. En fait, tous les Maliens naissent libres et puis ils sont égaux en fait en termes de droits, et puis ils ont droit à l'intégrité territoriale, à l'intégrité plutôt de leur corps. Donc, porter atteinte à ça en fait en faisant l'excision, soit en se basant sur une raison culturelle ou une raison religieuse, moi je trouve que cela est dommage, quoi.
Merci beaucoup, Rahabel, depuis le Mali. Merci également à Mariam Koulibaly, nos deux premières auditrices. Alors, Fatou Sow, justement, la religion, la culture sont les arguments. Et vous travaillez avec les imams depuis des années. Et comme vous le disiez, la famille omarienne, par exemple, est impliquée dans la lutte contre l'excision. Et c'est un argument qui ne tient pas forcément.
Oui, mais vous savez, d'abord, je vais vous dire, je ne travaille pas avec des imams. Mmh. Je suis un chercheur, je travaille sur le statut de la femme, sur la situation des femmes en Afrique, et plus précisément au Sénégal, puisque je suis sénégalaise. Je me suis occupée des questions de mutation génitale féminine au moment où je m'occupais des questions autour de la santé physique, santé sexuelle des femmes, autour des problèmes de la fécondité. Parce que vous savez que les mutations génitales féminines ont un impact extrêmement important et dégradent la santé sexuelle et physique des femmes. Donc c'est ça ma première question. Alors aller discuter avec la famille omarienne pour savoir si c'est dans la charia ou pas, je ne pense pas que ce soit une approche que je veuille avoir. Moi, ce que je veux avoir, comme l'ont dit les jeunes femmes qui m'ont précédé, c'est que c'est une atteinte à l'intégrité physique des femmes, à l'intégrité corporelle, et il n'y a aucune raison pour que cette pratique, qui au fond est une pratique de contrôle de la sexualité des femmes, puisse perdurer. D'autant plus qu'au Sénégal, on a non seulement des lois, mais même on a dans la Constitution, dans l'article 7, qui dit que tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, etc. et à l'intégrité corporelle, notamment à la protection contre toutes les mutilations physiques. Si la Constitution du Sénégal dit ça, dans son article 7, alors je ne vois pas pourquoi on ne se battrait pas pour que cette pratique cesse d'avoir lieu. Alors, vous savez, tout à l'heure on a dit l'excision. Mais moi, je n'aime pas le terme d'excision, parce que l'excision, ça revient à une pratique culturelle, coutumière, et personne ne penserait, comme la circoncision, bon, ça fait mal peut-être, mais ce sont des pratiques naturelles. Or, si on qualifie ça en termes de mutilation, donc c'est un acte de violence contre les corps des femmes. C'est ça qui est le plus important à faire. À discuter avec les associations religieuses, mais il y en a qui font le travail hein, quand même. Il y a d'autres, il y a des, surtout dans les villages où ça se pratique, les associations féminines qui sont là sont obligées de tenir compte de la vie et des opinions religieuses et de la vie des notables dans les quartiers. Mais moi je pense que au niveau, moi, pour lequel je me bats que ce soit un acte que le gouvernement s'engage de manière plus politique
D'accord.
à supprimer, la pratique.
D'accord. Nous allons prendre rapidement notre auditeur de la Côte d'Ivoire cette fois-ci, Abdoulaye Traoré. Bonsoir.
Bonsoir, c'est l'ami de la VOA.
Alors, on vous écoute. Quel est votre point de vue sur la question du jour?
Je voudrais simplement dire que chez nous, en Côte d'Ivoire, cette pratique a reculé compte tenu du fait que la Constitution, notre nouvelle Constitution, l'interdit. Il y a les députés qui ont voté des lois organiques dans le sens de l'interdiction. Et avec l'appui des ONG et la sensibilisation, cette pratique a largement reculé. Par contre, dans la zone nord et ouest du pays, cette pratique demeure et elle est pratiquement collée à ces populations en raison de pratiques culturelles et sociologiques, notamment dans les cercles initiatiques. Souvent, on estime que pour être majeur, il faut passer par le bois sacré et un certain nombre de pratiques rituelles. Et au cours de ces rituels, les jeunes gens sont circoncis et les femmes aussi sont excisées. Et donc, ce sont en Côte d'Ivoire, je pense, les postes de résistance et quelques mutilations génitales clandestines qui se pratiquent.
D'accord.
Sinon, l'action des ONG a vraiment porté. Et nous pensons qu'avec un appui de sensibilisation, ces zones réfractaires-là vont véritablement cesser de cette pratique avilissante.
D'accord. Merci beaucoup, Abdoulaye Traoré. Avant de passer à notre prochain auditeur, alors Fatou Sow, cet auditeur de la Côte d'Ivoire parlait de la loi, de la Constitution qui l'interdit. Vous l'avez également évoqué avec la loi de 99 au Sénégal. Mais la pratique persiste. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce que c'est la répression ou la sensibilisation ou les deux?
Bon, je crois qu'il faut quand même dire que la pratique recule. Mais personne ne sait vraiment. Il faudrait mener une enquête absolument minutieuse sur la pratique.
Et ça, c'est difficile d'obtenir des chiffres, n'est-ce pas?
On peut le faire, par exemple, en demandant à tous les médecins qui examinent des fillettes de préciser sur la fiche est-ce que l'enfant est excisé ou pas. Donc ça donnerait des chiffres. Or, ça n'existe toujours pas. Les médecins le demandent peu ou quand ils le demandent, ce n'est pas dit de manière officielle. Donc ça, c'est une première étape. Je pense qu'il faut mêler plusieurs... Il y a plusieurs aspects à prendre, il y a plusieurs approches. Je pense que la sanction, elle est obligatoire. Parce qu'au Sénégal, vous savez, au Sénégal, on a eu entre en 2004, en 2009, en 2010, des personnes qui ont été jugées parce que l'enfant excusé était décédé. Alors là, donc comme c'est un cas, pour que l'enfant soit enterré, il faut qu'on sache ce qui a provoqué la mort. Donc à ce moment-là, la justice
sans saisir.
Mais la justice elle-même ne dit rien. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est que la première fois au Sénégal qu'une personne a porté plainte lorsque la loi a été promulguée en 1999, c'est un homme, certainement malinqué, je crois, hein, parce qu'il est dans la région de Tambacounda. Quand en rentrant de voyage, il s'est rendu compte que sa femme et sa mère avaient excisé son enfant, il a y porté plainte.
D'accord. Alors, merci. Si vous me permettez, on va rapidement prendre notre auditeur. On a beaucoup d'auditeurs. Nous avons Ozana Théadoum depuis le Tchad. Théadoum, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous les auditeurs.
Oui, on vous écoute.
Moi, je dirais que la mutilation génitale reste un défi majeur en Afrique. Et tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour éradiquer ce fléau. Et cette pratique devient vraiment de plus en plus grandissante. Et beaucoup de gens font de ça à leur gain-pain. Alors, j'interpelle surtout les autorités. Et parfois, au niveau local même, certaines autorités ont leur part de gâteau. Donc, c'est vraiment difficile d'appliquer les lois.
D'accord.
Alors, je demande à nos dirigeants de se mettre dans la danse et essayer de trouver la solution à ces problèmes qui compromet vraiment à l'avenir de nos sœurs.
D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Théadoum. Nous allons passer Eddie Sirima, donc on retourne en Côte d'Ivoire à San Pedro. Eddie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, on vous écoute.
Alors, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ce sujet, la mutilation génitale est pratiquée en Afrique. C'est une pratique qui ne cherche pas de médecin en Afrique. Nous parlons de ce qui se passe dans les villes, mais est-ce que dans les villages, cette pratique-là n'existe pas? Les gens se cachent, prennent les filles et les envoient dans les campements. C'est-à-dire dans les coins reculés qui ne sont pas près de la ville pour aller étudier ces filles. Bon, vraiment, ça n'est pas encore arrêté.
Ouais.
En Côte d'Ivoire, ici, à l'ouest du pays, vraiment, dans les autres coins, ça a calmé. Voilà. Mais à l'ouest du pays, cette pratique continue d'exister.
D'accord,
donc,
merci.
Moi, je voudrais que le gouvernement applique davantage, puisque c'est manque d'informations. Ah, le message est mal passé en Afrique et jusqu'à présent, il y a des vieillards qui n'ont pas encore compris, qui pensent que c'est une pratique d'après eux traditionnelle et on ne peut pas changer, mais il faut continuer.
D'accord. Merci beaucoup, Eddie. On a compris votre point de vue. Avant d'aller à N'Djamena retrouver Apollinaire, nous allons voir avec notre invité Fatou Sow. Alors, Fatou, nous avons vu dans les années 90, au début des années 2000, beaucoup de cérémonies dans des villages où les exciseuses renoncer à la pratique publiquement en remettant leur matériel entre guillemets. Et pourquoi? Est-ce que vous pensez que ces cérémonies ont porté un peu leurs fruits?
Je vais d'abord vous donner mon opinion sur ces cérémonies.
Mm-hmm.
Ou plutôt sur les excuseuses. Parce que très souvent, on a eu l'argument dans les années 80 et 90 de dire que si les exciseuses pratiquaient encore l'excision, la mutilation sur ces petites filles, c'est parce qu'elles n'avaient pas de revenus et que c'est une manière pour elles de gagner leur vie. Je pense que c'est deux argumentaires qu'il faut absolument séparer. On ne peut pas gagner sa vie en violant le droit à l'intégrité physique des enfants. Donc ça, c'est une première chose. Parce que l'État, comme il disait l'une des personnes qui a parlé juste là, il faut en fait mettre en exergue les droits de l'enfant. Et les droits de l'enfant, c'est aussi bien ne pas avoir d'atteinte sur son corps, interdiction de les marier petites filles, etc. Donc il y a un ensemble de lois que tous les États africains ont dans leur immense majorité, et je pense presque tous, adoptées, et au fond, ils paient très peu d'attention aux risques qu'ils ont courus par les enfants. Alors, les excuseuses, il faut bien sûr les former à trouver une autre pratique qui leur permette de gagner leur revenu. Bon, il y a eu des cérémonies, c'est peut-être d'une certaine manière de les convaincre que c'était une tâche qu'on ne pouvait pas rémunérer, parce que cette tâche était un crime contre le corps d'un enfant.
D'accord.
Mais je pense que c'est deux problèmes qu'il faut distinguer.
D'accord. Alors nous allons retrouver Apollinaire depuis N'Djamena. Apollinaire, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
D'accord, on vous écoute.
Oui, moi je dirais ceci. Hein. Beaucoup de ONG, les États ont essayé de lutter contre ces phénomènes qui est très très néfaste. Et d'ailleurs, il faut noter que l'excision féminine, c'est une pratique ancestrale, coutumière, culturelle. Donc, il faut essayer d'élargir la lutte, surtout vers nos villages, parce que c'est une pratique qui se pratique dans les villages, dans les milieux un peu reculés.
D'accord. Donc, merci beaucoup, Apollinaire. On va aller vite. Là, nous avons aussi Yao Marcelin depuis Abidjan. Bonsoir.
Bonsoir, M. Abdullah. Bonsoir à tous les viewers.
Vous dénoncez également vigoureusement cette pratique sur notre page Facebook. On vous écoute.
Justement, c'est une pratique vraiment déshumanisante, je sais, à la limite, je pense. Parce que normalement, nous sommes au 21e siècle. Cette pratique-là, normalement, elle devrait être revenue.
de l'être vraiment complètement arrayé de vraiment de toute une société traditionnelle africaine. C'est un peu écœurant d'apprendre qu'encore jusqu'au 21e siècle, encore c'est une pratique qui existe. Et vraiment, c'est gênant, franchement, c'est gênant. Moi, je pense qu'il faut vraiment axer l'accent, il faut mettre l'accent sur la sensibilisation. Il faudrait que la sensibilisation atteigne réellement sa cible.
D'accord.
Dans une zone rurale, ce genre de pratique-là, pour cibler ces zones rurales-là et vraiment axer la sensibilisation. Et en dernier ressort,
merci.
Aller attaquer le côté répressif. Parce que c'est ça qui fait qu'il y a une force un peu à la chose. Il faut réprimer.
D'accord, merci beaucoup. On est obligé d'aller très vite. On a essayé d'avoir Diallo Tierno, qui a quand même un point de vue différent. On n'arrive pas à l'avoir, mais je vais quand même lire son commentaire pour un peu équilibrer. Il dit, ici dans mon pays, je ne dis pas ailleurs, mais ici en Guinée, cette pratique demeurera pour toujours et personne ne pourra y mettre fin. Nos valeurs culturelles et religieuses sont plus fortes que les Nations Unies et les autres organisations propagandistes. C'est son point de vue. Alors, Fatou, ça me donne une idée un peu du débat aujourd'hui.
Écoutez, heureusement qu'il y a de plus en plus de personnes, et notamment d'hommes, qui réprouvent la pratique, comme on l'a eu tout au long de cette trentaine de minutes. Hein. Mm-hmm. La plupart des hommes qu'on a interrogés, ils ont été plus nombreux à parler que d'autres, sont contre la pratique et pensent qu'il faut soit sensibiliser, soit réprimer, mais en tout cas qu'il faut faire une action, notamment en direction des villages, parce qu'en ville, effectivement, la pratique recule. Alors, mais la pratique, elle est encore là, même si elle a énormément diminué, parce qu'il y a toujours des hommes comme M. Diallo qui disent c'est une pratique qui est là, ce sera passé. Les Nations Unies n'ont rien à dire, ni l'Occident, ni le reste de la modernité. C'est vrai, c'est dommage qu'on ait encore des positions comme celle-là, mais je pense que la démocratie exige que les droits de tous les humains soient protégés.
D'accord.
Et les droits des petites filles
d'être
protégés contre les fusions, contre le mariage précoce.
D'accord. Fatou, nous allons rapidement prendre Abou du Mali, n'est-ce pas? Abou, bonsoir. Abou ne nous entend pas, nous avons un autre auditeur. Sinon, nous allons clôturer cette émission avec notre Abou. Oui, allez-y. Rapidement. Abou, vous nous entendez? Bertin? On me dit que Bertin est en ligne.
Oui,
on vous écoute en 30 secondes.
Oui, vraiment, la mutilation génitale dans l'ONU œuvre pour l'éradication, c'est une bonne chose. Mais la pratique au Tchad, dans mon pays, si on prend au maximum trois régions qui pratiquent cela, ce n'est pas une obligation, mais par intimidation, l'entourage vous intimide en vous insultant en termes locaux, et les femmes sont obligées de faire mutiler volontairement.
Ouais, d'accord.
Et pas de manière forcée, mais
la sensibilisation, donc, à la place de l'usage un peu de la force, comme vous le dites. Nous allons terminer rapidement avec Fatou Sow, notre invité. Fatou Sow, quelques mots en 30 secondes.
Alors, en 30 secondes, hein, vous savez, l'exclusion est souvent tenue comme une coutume qui est caractéristique d'identité féminine africaine. Parce que s'il n'y a pas l'exclusion, alors on voit disparaître des processus de socialisation et des pratiques rituelles qui permettent aux femmes d'avoir leur identité. Alors moi, mon opinion, c'est que je refuse, et il faut refuser pour les Africaines, une identité qui est au fond l'identité de l'oppression et de la domination, de l'oppression sexuelle et la domination sexuelle. Parce qu'est-ce que l'excision et les mutilations génitales féminines? C'est au fond contrôler la sexualité des femmes, contrôler leur plaisir. Et ça, je pense, c'est une atteinte fondamentale.
Voilà, merci beaucoup Dr Fatou Sow depuis Dakar. Merci à tous les auditeurs et auditrices qui ont appelé. Abdourahmane Dia au micro, je vous remercie. Merci également à Joselle Morissin d'avoir réalisé cette édition. Au revoir.